Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. C'est Jean-Brice Thivan qui accueille aujourd'hui un invité spécial. Je ne connaissais pas Daniel, hein. Il m'a envoyé à la suite d'une vidéo que j'avais faite sur l'entraînement physique après 40 ans, ses performances. Alors j'ai été impressionné par ce qu'il faisait, j'ai voulu voir d'ailleurs, il m'a envoyé des vidéos pour confirmer qu'il faisait bien, le nombre de pompes, de tractions, de dips, etc. qu'il m'avait annoncé. Et j'ai trouvé son approche de l'exercice physique d'autant plus intéressante parce qu'il a commencé l'exercice physique après 60 ans. Et pour beaucoup de personnes qui se disent « voilà, c'est trop tard, c'est pas le bon moment, j'ai pas de base physique, etc. Je ne pourrai pas commencer, c'est trop dur, etc. » Donc, tout ce genre d'excuses vont être balayées comme ça de revers, de la main, et on va voir que l'exercice physique, surtout quand on avance en âge, après 40, 50, et encore plus après 60 ans, il constitue un outil de santé parmi les plus importants. Pour moi, c'est un des trois grands piliers de la santé, vous savez. Et s'il y avait une pilule magique qui permettait d'obtenir tous les effets bénéfiques du mouvement sur la santé, celui qui le commercialiserait serait milliardaire. Alors, ce témoignage va, j'espère, vous donner envie de vous remettre à la pratique si vous avez arrêté, de l'amplifier ou de la modifier en fonction de certaines méthodes dont va parler Daniel. Et Daniel, dans cette vidéo, va nous expliquer comment, après 60 ans, on peut pratiquer, quel type de méthodes on peut utiliser en musculation qui sont sans doute les plus bénéfiques. Quelles sont, on verra ses analyses biologiques, comment elles ont évolué, sa morphologie, son alimentation, etc., etc. Donc, tous les bienfaits de la mise en place de l'exercice physique pour sa santé. Bonjour Daniel.
Bonjour, c'est Daniel.
Je vais te demander de te présenter et puis de déjà nous expliquer, dans un premier temps, quelle était un petit peu ta vie avant de pratiquer de l'exercice physique tel que tu le fais aujourd'hui, et puis ensuite, ce que tu as mis en place et ce que ça t'a apporté.
Ok, donc Daniel, 66 ans depuis peu. Je mesure 1m78, 69 kilos tout juste. Pour ceux pour qui ça intéresse, mon tour de biceps est de 38 cm. Ma masse grasse est entre 10 et 12, je pense, vu que mes abdominaux sont apparents. Mais je me trouve encore un peu gras.
Je pense, honnêtement, sur les photos que tu m'as envoyées, que je vais montrer à l'écran, là, parce que je les projette, je pense que tu es un petit peu au-dessus de 12-13. Hein. Pour une masse maigre, une masse grasse, pardon, en dessous de 10-12, c'est déjà très sec. Et je pense que ce n'est même pas un atout santé au-delà d'un certain âge. En dessous de 10%, je pense que ce n'est pas nécessaire et utile. Voilà, moi, je pense qu'il faut maintenir une masse grasse plutôt autour de 15% pour que ce soit une réserve utile, mais déstockable facilement.
Je pense, moi, quand je me vois dans la glace, j'ai quand même un petit bourrelet au niveau du ventre et c'est ce qui me fait dire que 2 kilos de moins, ce ne serait pas plus mal. Voilà, c'est surtout esthétique.
Oui, voilà, mais on verra que d'un point de vue vitalité, c'est surtout le rapport masse maigre, masse grasse qui compte. Et ta quantité de masse maigre de muscles, donc on verra, est largement suffisante pour être en très bonne santé. Je te laisse continuer.
Eh bien, on va parler de mon enfance. Donc, j'étais plutôt un enfant hyperactif, hein. Maigre. J'étais une vraie boule de nerfs, comme on disait. J'étais toujours en train de courir, tout cassé, bousculé. Et parler continuellement. Je faisais régulièrement des otites et j'avais des problèmes de gorge. Ado et jeune, j'ai eu beaucoup d'acné, beaucoup d'eczéma et j'avais toujours un poids de 67 kilos en fait. Et je faisais pratiquement pas de sport. Donc c'est vrai que mon tempérament, je dirais qu'il est plutôt ectomorphe pour ceux qui connaissent. Tu pourras en parler.
Plutôt longiligne, on va dire, voilà.
Voilà. Et je pense que je prends difficilement du muscle. D'ailleurs, j'ai pratiqué une année en salle de la musculation et j'ai trouvé que je n'avais pas pris. Donc, beaucoup de difficultés à prendre du muscle.
D'accord.
Donc, mon poids était très faible, en fait, 67 kilos. Alors, pourtant, j'ai un appétit très féroce. Voilà. Donc, plus tard, bon, pendant des décennies, j'ai conservé un poids assez mince, tout en ne faisant pas beaucoup de sport. J'étais toujours dans les 60, 60, puis en vieillissant, 71, 72 kilos. Ça commençait un petit peu à prendre.
D'accord.
Voilà.
Et donc c'était plutôt de la, c'était pas du muscle, on est bien d'accord.
Eh oui, c'était pas du muscle, parce que comme je faisais pas de sport, c'était forcément au niveau
Étourdissant.
de la poitrine. J'avais des seins.
Oui.
Bon, pas énorme, mais bon, ça se voyait que j'avais du gras ici et au niveau du ventre. Voilà. Alors que le reste était mince, c'est-à-dire que pas de muscles. Donc, j'étais en fait, comme on dit, skinny fat, c'est-à-dire maigre, mais avec du gras quand même.
Voilà. Alors, je fais juste un petit point là-dessus parce que on peut très bien effectivement prendre de la masse grasse. C'est ce qui arrive chez surtout les hommes en vieillissant, hein. Il y a ce qu'on appelle un phénomène d'aromatase, en particulier après la cinquantaine. Ça se développe même un petit peu avant, hein, ça peut arriver. Quand la graisse que l'on prend peut se transformer un petit peu en notre testostérone en œstrogène. Et ça peut entraîner effectivement une formation de petits seins qui poussent. Voilà. Mais c'est surtout une graisse qui va se déposer sur la poitrine et le ventre pour les hommes. Et c'est symptomatique, on va dire, de l'évolution vers un état, je dirais pas de maladie métabolique, mais si ça va aller trop loin, effectivement, ça peut donner ce type de symptômes-là. Donc,
Oui.
là, on arrive sur la deuxième partie de ta vie, 40, 50 ans. Tu ne faisais toujours pas de sport?
Voilà, jusqu'à 61 ans, donc je ne faisais pratiquement pas de sport, du bricolage, bien sûr.
Qu'est-ce qui a fait justement que d'un coup, à 60 ans, 61 ans, tu te décides à la pratique physique?
Et ben voilà, c'est à l'occasion d'une photo que je me suis pris avec mes deux filles. J'étais torse nu et c'est là que bah, je me suis aperçu que esthétiquement c'était quand même pas très gracieux d'être maigre sans muscles et puis avoir une petite bedaine et des seins apparents. Je me suis dit tiens, il serait peut-être temps de faire quelque chose pour se remettre en question et puis changer sa vie,
D'accord.
notamment par le sport et l'alimentation.
Donc ton objectif, il était esthétique, toi, au début.
Exactement, c'était que ça, parce
D'accord.
que niveau santé, je touche du bois, mais j'ai jamais été malade. D'ailleurs, maintenant, je ne prends aucun médicament. Mais ouais, c'est surtout esthétique, quoi. C'est ça, c'est ça.
D'accord. Alors, par rapport à ça, j'aimerais juste expliquer qu'en fait, la notion d'esthétique, elle est toujours reliée à cette notion de vitalité. Nous, ce qu'on recherche, c'est une esthétique fonctionnelle, c'est-à-dire une prise de muscle suffisante pour pouvoir limiter ce qu'on appelle en vieillissant la sarcopénie. Et on verra qu'une stimulation musculaire par l'intermédiaire des myokines qui sont sécrétées par le muscle va avoir un effet sur l'ensemble de l'organisme, hein, d'énormes quantité d'organes avec énormément d'effets positifs sur l'adaptation, la vitalité, etc. Donc, il y a la notion de conservation de muscles est très importante en termes de santé. Toi, tu l'as vu en termes d'esthétique, mais on va voir que en termes de santé, c'est essentiel. Alors, comment ça a démarré? Tu t'es dit comme ça du jour au lendemain, ben oui, je vais me prendre en main, je vais faire du sport, je vais modifier mon alimentation. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors, raconte-nous.
Exactement. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai pris des bonnes résolutions, comme tout le monde en fin d'année, on prend des résolutions, on les maintient pas forcément, mais là, je me suis dit, je vais commencer par me documenter sur Internet pour voir ce que je pouvais faire pour améliorer mon alimentation de façon à, en même temps, perdre du poids. Parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, niveau santé, je n'avais pas de problème, si ce n'est que j'avais quand même des problèmes articulaires. Bon, je pensais que c'était la vieillesse en vieillissant, mais c'était surtout l'alimentation qui était basée sur un peu de sucre, des céréales et des produits laitiers.
On a juste le droit de vieillir sans avoir de douleur articulaire. J'explique que
Exactement.
je veux juste te dire que c'est pas normal.
Oui.
Vas-y,
Donc,
continue. Tu mangeais donc beaucoup trop de céréales et de produits laitiers pour toi?
bah oui, je prenais trop de céréales et de produits laitiers, et donc j'avais de l'eczéma, suintant, derrière l'oreille, des bronchites et des angines à répétition tous les mois. J'en avais au moins une par mois, des inflammations. Et donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté les produits laitiers. Chez moi, je parle, hein, je ne parle pas en
Oui.
général. Bah, chez moi, ça a marché et tous mes symptômes ont disparu. Donc, en même temps, mes inflammations et puis mes douleurs articulaires ont quand même beaucoup diminué. Donc, cette littérature sur Internet m'a changé et j'ai compris que, en fait, je mangeais paléo, le fameux régime paléolithique. Et c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait augmenter ma quantité de protéines, que je mangeais très peu de protéines en fait, parce qu'on dit toujours, ah, attention, la viande, c'est pas bon, faut pas en manger trop. Et en fait, en vieillissant, comme tu disais, pour éviter la sarcopénie, il faut manger un peu plus de protéines.
Bien différencié parce que tu mangeais quand même des protéines, puisque tu mangeais des céréales, un peu de légumineuses, des choses comme ça. Donc tu en consommais un petit peu, même s'il n'y en avait que 10% dans ce type d'aliments-là, ou même dans les produits laitiers, tu en avais, mais bon, là, ils étaient pro-inflammatoires pour toi. Et la qualité nutritionnelle de ces protéines, c'est-à-dire la quantité d'acides aminés essentiels qu'on va trouver dans chacun des aliments, en comptant l'acide aminé manquant, etc., fait que, bon, en fait, tu n'avais pas d'apport énorme et tu avais surtout trop d'apport de glucides par rapport aux protéines. Hein, c'est surtout ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Et en allant vers des aliments plus carnés, c'est ça, hein, tu as eu un peu plus d'apport protéique et donc moins glucidique.
Voilà. Je me suis aperçu que je consommais uniquement 30-40 grammes de protéines par jour, ce qui est peu vu mon poids. Parce
Oui,
que, comme tu le
effectivement.
sais, évidemment, c'est 0,8 grammes de protéines par poids. Donc, il me fallait 50 grammes sans faire le sport. Donc, en faisant du sport, il me fallait au moins pratiquement 2 grammes par kilo de poids, c'est-à-dire entre 100 et 140 grammes de protéines. Donc, quand tu as compris ça, bah, tu t'es dit, il faut que je mange plus de viande, forcément, puisque les protéines sont dans les bonnes protéines sont dans les viandes. Voilà.
Alors, attention, on va faire un petit point là-dessus parce que voilà. Déjà, la notion de 0,8 grammes par kilo de poids de corps pour un sédentaire en base minimale, il y a beaucoup de débats autour de ça aujourd'hui, que ce soit dans l'alimentation cétogène, paléo, végétarienne, etc. C'est très difficile d'évaluer ça puisque nos capacités d'assimilation, de fixation des protéines sont très variables, hein, d'une personne à une autre. Ensuite, il faut bien comprendre que on recycle aussi des protéines. Beaucoup de gens oublient ça. Et quand on est en autophagie la nuit, quand on est en recyclage et qu'on a suffisamment de jeûne à certains moments, le corps va réutiliser les protéines, les mauvaises structures en fait qu'il dégrade dans les cellules pour en faire de nouvelles. Donc, on n'est pas obligé pour vivre ou survivre correctement d'avoir au moins 1,2 grammes de protéines comme le disent certains. Mais non, on s'aperçoit surtout en vieillissant, après 50, 60 ans, 65 ans en particulier, que cet apport protéique est beaucoup plus difficile à fixer, c'est-à-dire qu'il va falloir plus de protéines pour avoir une fixation de ces protéines au niveau musculaire et avoir des effets aussi très intéressants, indirects, par, on va dire, la créatine contenue dans les viandes, etc., qui ont des effets sur le système nerveux. Là, voilà. Enfin, on va voir que la protéine animale, à partir de 65 ans, la stimulation des IGF et tout ça, est plus importante, doit être plus importante. C'est en tout cas le résultat de beaucoup de travaux, même de chez Longo, où il explique que le Longo, Walter Longo, hein, j'en avais parlé un petit peu dans certaines vidéos, il travaille beaucoup sur le cancer, sur le jeûne, et on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'intérêt à diminuer les protéines avant 50 ans, 60 ans, à diminuer, c'est-à-dire pas avoir des apports excessifs au-delà de 1,2 grammes. Hein, voilà, il explique qu'au-delà, il y a trop de sécrétion d'IGF. De facteurs de croissance, alors sauf si on fait de l'exercice physique, on peut augmenter les doses. Et par contre, après 60-65 ans, ces IGF sont moins problématiques et au contraire sont facteurs de longévité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudrait augmenter nos apports protéiques. Voilà, c'était juste une petite précision, mais sur la notion de 0,8, 1, 1,2, il y en a qui vivent avec 0,7 g, 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps, hein, et ils vivent. Est-ce qu'ils sont dans une santé optimale? Difficile à dire, mais ils ont peut-être d'autres apports énergétiques qui compensent. Voilà. Moi, je ne suis pas dogmatique là-dessus. Je pense qu'il y en a qui ont des capacités de recyclage de ces protéines meilleures que d'autres aussi. Donc, voilà. Maintenant, toi, tu as trouvé ton équilibre comme ça. Et donc, ton alimentation se résume à quoi aujourd'hui?
Je suis donc paléo, mais pas strict. C'est-à-dire que je suis quand même omnivore et je mange de tout,
OK.
mais j'ai axé sur les protéines. Mes repas, je vais te dire ça exactement pour pas oublier, j'ai pris ma petite fiche. Je mange à 10 heures le matin,
OK.
donc 8 heures le soir, donc ça me fait pratiquement une petite diète
Un petit jeûne
intermittente, voilà.
intermittent de 14 heures, on
Un
va
petit
dire,
jeûne
enfin, c'est même pas
intermittent.
vraiment un jeûne intermittent, c'est un jeûne nocturne normal, quoi, oui.
Voilà.
Vas-y.
4 œufs le matin avec de l'huile de coco
OK.
pour avoir du gras. Et puis éventuellement, je prends un petit fruit, mais pas trop. Hop,
D'accord.
deux fraises, un truc de saison, quoi.
OK.
Voilà. Et ensuite, à 13 heures, je mange. Bon, ça varie, hein. Bon, on va donner un exemple. Un avocat, des légumes variés, donc un peu de féculents, donc. Patate, même si en paléo la patate c'est pas très recommandé, mais ça fait rien, j'en prends quand même un peu parce qu'il
Oui.
y a quand même du sucre, il m'en faut. Je prends des carottes, des navets, un peu de tout quoi. Bien assaisonné d'huile d'olive et du vinaigre de cidre,
Oui.
accompagné d'une viande ou d'un poisson. Donc il y a toujours protéines en même temps. Donc ça fait deux fois donc le matin protéines et à 13 h protéines. Je finis par un café sucré. Donc, toi, le sucre, ça ne me fait pas peur, mais très peu. Et chocolat, 2 à 4 carrés. Voilà, je suis gourmand.
Chocolat noir, je suppose.
Ensuite, du noir, oui, 85 ou 74, ouais. Voilà. Et du bio, parce que je mange bio en 90%. À 17 h, je prends une petite collation. Je suis dehors, je suis actif. Donc, j'essaye de prendre 25 grammes de protéines de poids pour encore avoir mes 25 grammes. De façon à ce que la journée, j'ai mes 100 grammes de protéines, 120 grammes. Et je prends des
D'accord.
fruits secs, ça peut être noix, noisettes, amandes, mais sans pas trop. Faut faire attention à ces fameuses huiles qu'on trouve dans les oléagineux, enfin dans ces graines. Dans toutes les graines, notamment les noix, il y a beaucoup d'oméga-6, donc c'est très gras. Donc il ne faut pas en abuser.
D'accord.
À un moment, j'en mangeais énormément. J'en mangeais 15 par jour
D'accord.
et vraiment, j'avais 400 calories rien qu'avec les noix et noisettes, quoi.
C'est pas le problème des calories et du gras. Le problème, c'est l'origine de ce gras, la nature. C'est que c'est une structure
Exactement.
d'oméga 6, comme tu dis. Et le corps ne sait très, très, très mal les utiliser, en fait. Ce sont des graisses très mal, qui brûlent très mal. Et en plus, elles s'oxydent, elles sont très fragiles, elles rancissent dans l'organisme. Elles puisent aussi
Voilà.
sur nos réserves d'antioxydants. Donc, il faut faire très attention avec ces fameuses oméga 6, qui sont très mal brûlées dans l'organisme, effectivement, et qui se stockent, en fait.
Et pour finir, donc le soir, rebelote 4 œufs. Des légumes. Quand j'ai encore un peu faim, bah, je me dis, allez, trois crevettes, trois gambas, j'aime bien. Des
D'accord.
crêpes au sarrasin avec du sucre vanillé ou une banane flambée. Le sarrasin, j'aime bien. Et puis en plus, comme ce n'est pas vraiment une céréale, il n'y a pas trop de gluten dedans, donc j'évite aussi le gluten. Voilà.
D'accord.
C'est un peu
Est-ce
la
que
mode,
toi,
mais
tu as
bon,
des
je me dis,
problèmes
à
de
faire.
digestion particuliers
En fait,
aujourd'hui?
non, non, non. Bah, j'ai eu des périodes,
D'accord.
oui, où l'alimentation, les aliments étaient coincés au niveau de la gorge et puis ça remontait. Voilà. Maintenant, comme je digère mieux, je fais des mouvements d'étirement, de respiration ventrale. Je digère beaucoup mieux et
Par rapport
c'est
à ce que
guéri.
tu nous décris, moi, juste avec mon regard extérieur, hein, voilà, ton raisonnement, ça a été de dire, voilà, moi, je ne digère pas très bien, je vais faire des mouvements pour calmer et favoriser cette digestion. Pour moi,
Voilà.
si tu as des difficultés, hein, les aliments qui remontent, qui sont mal digérés, etc., c'est que tu as des choses, justement, qui ne te conviennent pas encore. Tu as changé ton
Oui.
alimentation, mais
Ouais.
il y a sans doute des choses qui ne passent pas encore. Qui produisent
Oui, il y a
peut-être des poisons, des lectines, des choses comme ça. Alors, dans ce que
Il y a
tu
une
m'as
espèce.
décrit, je sais très bien que les protéines passent très bien, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, quand tu me dis que tu prends en complément alimentaire du poids, enfin de la protéine de poids, c'est un aliment qui est très riche en lectine, extrêmement riche en bactéricides naturels sécrétés par la plante. C'est quelque chose qui va fermenter facilement parce qu'il y a du sucre aussi dedans quand même un petit peu. Bien que ce soit que de la protéine, il y a quand même encore des fibres, des choses. C'est extrêmement, pour avoir testé, c'est extrêmement indigeste. Voilà. Maintenant, toi, peut-être que ça te réussit. Hein, en tout cas, moi, je l'ai enlevé, tu vois, à mon père, et j'ai préféré remplacer par de la whey ou des protéines de blanc d'œuf qui étaient un peu mieux digérées par lui. Mais toi, la whey ne te conviendra pas. On est bien d'accord.
Non,
Hein, je ne te la
tout à
conseille
fait.
pas. Hein. Mais tu vois, je pourrais peut-être regarder si dans quel type de protéines en complément et voir si est-ce que ce complément-là est vraiment nécessaire compte tenu de ce que tu manges toute la journée en termes protéiques.
J'ai diminué là, et même j'en ai plus, donc j'ai arrêté depuis 15 jours. Donc effectivement,
De
ça
quoi?
me
Tu as
manque
arrêté quoi?
la protéine de poids.
Protéines de poids, ouais. Parce que moi, je pense que tu l'enlèves, tu seras plus à
Ouais.
l'aise en termes de digestion, tu assimileras mieux le soir et tu verras pas de différence sur ta masse musculaire. Hein.
Mais il y a
Donc,
aussi un problème de digestion, il y a aussi l'émotionnel, hein, tout ce qui est
je suis d'accord.
parasympathique. Donc là, le
Oui, bien sûr.
fait de respirer par le ventre, ça permet de masser, ça permet
Oui.
de détendre, et donc ça a quand même aussi un effet bénéfique
Oui, mais ce que je veux
à mon
juste
niveau.
expliquer, c'est que normalement, tu ne devrais manger, on devrait manger, au moment où on mange, on passe justement en parasympathique-otonie, en vagotonie. Le corps ne sait digérer que dans cet état-là. Hein, il ne peut pas digérer en état de tension et de stress, ou en faisant du sport, ou en étant nerveusement actif. Ce que je veux dire, c'est que même dans cet état de détente, tu peux ne pas digérer correctement les choses. Si tu les digères correctement, tu n'as pas besoin de manœuvres particulières, de respiration. Voilà. Tu manges comme l'animal, il mange et il dort derrière, quoi. Et tout se digère très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Il
C'est vrai.
n'y a pas besoin de
Enfin, chez moi.
manœuvres particulières. Ça n'est
Ouais.
pas naturel en soi. Hein. Moi, tu sais, je suis pour une vision très simpliste de du fonctionnement humain, hein, une fonction très ancestrale. Voilà. Et normalement, tout doit être très bien se passer. Donc, si tu as quelque chose qui remonte, qui ne passe pas bien, il faut analyser les choses et les corriger. En tout cas, qu'est-ce
Ouais.
qui a vraiment changé entre l'avant, ton alimentation d'avant et ton alimentation d'aujourd'hui? On verra pour l'exercice physique juste après, qui est la partie la plus intéressante. Hein. Vas-y.
Oui. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop eu de changement, si ce n'est que du fait que je consommais plus de produits laitiers et de céréales, les problèmes de peau et d'eczéma ont disparu, et donc j'ai perdu un peu de poids en éliminant par les céréales et les produits laitiers, le gras animal, enfin qui vient des produits laitiers. Mais sinon, niveau parfois, non, j'ai pas vu trop de changements en fait.
D'accord. En fait, tu as enlevé des glucides dans ton alimentation et des produits laitiers, okay, des
Voilà.
céréales et tout ça. Donc, ton poids, là, ces dernières années, il a évolué de combien à combien entre le moment où tu as changé de régime alimentaire et tu as commencé l'exercice physique par rapport à avant?
Voilà. Alors, l'évolution, c'est que avant sport et prise de conscience, je faisais 72 kilos. Et après d'avoir fait du sport, de la musculation et d'avoir changé mon alimentation, je suis retombé plutôt vers les mêmes 67 à un moment. J'étais un peu trop mince. J'ai repris après du muscle en même temps, ce qui fait que j'ai réussi à perdre du gras et prendre du muscle, ce qui est pratiquement impossible à prendre. Comme on dit souvent, c'est pas possible de prendre du muscle si tu grossis pas. Alors que moi, ça a été l'inverse. J'ai réussi à perdre du gras et prendre du muscle. Parce que quand c'est au début, c'est possible. Mais après, en évoluant, on n'arrive plus à prendre du muscle, il faut prendre du poids.
C'est ce dont on parle souvent dans les milieux de la musculation, hein, où on vous dit qu'il faut faire une prise de masse, et dans cette prise de masse, on augmente les glucides et les protéines, et même les graisses, on augmente les calories, donc la personne, elle grossit, elle prend de la masse grasse, en plus de prendre sa masse musculaire, et ensuite on fait une période de sèche, qui est complètement fou et aberrant d'un point de vue santé et équilibre, surtout après 60 ans en plus. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout nécessaire. ça n'interdit pas de prendre un peu de gras à un moment donné, hein, mais se forcer à consommer des glucides en plus pour prendre de la masse grasse, moi, je trouve ça un petit peu idiot, mais bon, c'est comme ça. Donc là, dans ton optique santé, tu as commencé à prendre de la masse musculaire, mais pour ça, donc, tu as dû faire de l'exercice physique, hein, pour fixer tes protéines, parce que ce n'est pas évident de prendre du muscle sans rien faire.
Voilà. Donc, comme tu disais, moi-même, je ne voulais pas faire le yo-yo, c'est-à-dire prendre du poids, refaire une sèche. Je dis, attends, c'est idiot, c'est pas naturel. Donc, et quand j'essayais de manger plus, c'est-à-dire que je comptais, j'étais à 3500 calories, c'est vrai que je suis allé jusqu'à 74 kilos. Donc, j'étais content, ouais, super, j'ai pris. Mais en fait, en regardant bien, je me suis dit, mais t'as pris du bide, hein? T'as pris de la graisse en fait, et t'es pas plus fort, t'es pas plus musclé et t'es pas plus fort. Donc, je me suis dit, arrêtons ça et mangeons naturellement, normalement, et puis on verra bien. Laissons faire la nature.
Ok. Alors, tes entraînements, raconte-moi, comment on passe de sédentaire à des performances comme les tiennes? Alors, dis-nous aujourd'hui un petit peu ce que tu fais comme record, d'abord sur tes tractions, tes pompes. Alors, je vais montrer à l'image un peu tout ce que tu fais, hein, à 66 ans. C'est impressionnant. On est d'accord, hein? Donc, tu étais sédentaire quasiment avant 60 ans et tu décides de faire de la musculation. Comment tu commences? Bon, on va commencer comme ça. Allez, vas-y.
Bon, d'abord, la décision a été prise. Il fallait se mettre au sport. Pour cela, il fallait investir. Donc, je peux parler de l'investissement qu'il faut minimum à toute personne qui veut commencer la musculation. C'est important parce qu'on ne se muscle pas comme ça en se regardant dans la glace. Il faut se muscler, mais il faut quand même avoir des appareils. Donc, mon premier achat, ça a été une chaise romaine. Voilà, tu pourras peut-être mettre une photo pour faire voir ce que c'est.
Oui, on va la voir là, oui.
Voilà, ça permet de faire des tractions et puis des dips et des relevés de jambes notamment. Ensuite, j'ai essayé avec les poids et haltères, mais j'ai vite abandonné. Ça m'énervait de prendre des poids, les soulever bêtement. Et en plus, comme j'avais déjà fait une année, même deux en salle, je ne voulais pas refaire ça, quoi, refaire l'expérience des poids. En fait, les poids maintenant me servent à me lester, à me rendre plus lourd pour rendre l'exercice plus difficile. Parce qu'au fur et à mesure où j'ai fait la musculation, étant devenu de plus en plus performant, pour ne pas végéter, il faut mettre du poids pour être plus fort et augmenter en masse musculaire. Donc, les poids me servent à ça. J'ai acheté une ceinture lestée où je mets les poids justement pour être plus lourd, jusqu'à 30 kg pour les tractions notamment. Et je me suis acheté un gilet lesté de 10 kg. Comme ça, c'est pratique. On le met directement. On peut faire des pompes. On peut tout faire avec. J'ai finalement acheté des anneaux de gymnastique. Parce que ça, c'est vraiment bon, c'est après ça, c'est quand on est quand même déjà plus performant, on débute pas avec les anneaux, hein, parce que c'est difficile. Non. Et j'ai aussi acheté des élastiques, voilà, qui permettent de faire
pour faciliter plutôt, oui, voilà. Faire certains mouvements.
C'est doux en même temps, c'est progressif comme matériel, voilà. Donc ça, c'est l'achat de mon matériel. Et puis, je me suis lancé à faire mes premières tractions avec ma chaise romaine. Au début, j'en faisais trois difficilement. Et puis, en peu de temps, peut-être en un an et demi, j'ai réussi à en faire une fois 30 à 35. Bon, elles étaient peut-être pas forcément hyper propres.
Mais oui, c'est pas des tractions complètes, hein, je précise. C'est des demi-tractions, oui, hein, 35, ouais. Mais tu es capable d'en faire facilement une douzaine complète, hein, oui, j'ai vu. Et oui, effectivement, à ton âge, c'est vraiment une très belle performance, quoi. C'est une logique de progression. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu t'es dit, bon, je fais de la musculation, mais voilà, j'en fais trois, c'est dur, mais je ne vais pas m'arrêter là, quoi.
D'accord. Non, mais je reprends ce que tu as dit sur mes demi-tractions. C'est parce que tu as vu une vidéo où je faisais des demi-tractions. Parce que moi, je suis plutôt d'un tempérament nerveux. Donc, j'ai besoin de faire des mouvements rapides, puissants. J'aime bien la pliométrie. Donc, faire des demi-tractions, ça me permet de faire des tractions extrêmement violentes et rapides. Mais je suis aussi capable de faire des tractions lentes. J'en ferai peut-être pas 30,
oui,
mais je peux.
J'ai vu.
Je suis sûr. J'en fais 20, 25. Facile, je peux en faire 25. Des belles. Je t'enverrai une vidéo d'ailleurs.
utilise plein de méthodes, hein, de musculation
Voilà.
variées. C'est très bien. C'est ce qu'il faut faire pour stimuler le muscle sous différents angles, avec différentes intensités, en utilisant plus ou moins le système nerveux. Donc, c'est ce qui permet de progresser, d'avoir ce qu'on appelle une certaine plasticité, c'est-à-dire que le muscle ne va pas se développer, il va rester fonctionnel, il ne va pas se développer simplement en étant performant dans un mouvement ou voilà. Il faut le développer sur tous ses angles. Et c'est ça un petit peu l'aspect santé pour venir à ce qu'on appelle une gymnastique plus fonctionnelle, hein, où on fait des mouvements globaux que faisaient nos ancêtres quand ils faisaient de la chasse ou des choses comme ça. On appelle ça un petit peu maintenant. Le MoveNat, et puis on peut aller vers des choses qu'on fait dans le CrossFit, hein, comme on voit aux images que tu peux faire, aux anneaux, ou des choses comme ça, qui sont des mouvements beaucoup plus difficiles, effectivement, hein.